Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.
Bonjour, Agnès pour l'émission Autre Monde, Autres Ondes avec Attaque 44 pour vous présenter en décembre et janvier deux émissions sur la pollution du port de Saint-Nazaire et d'Onge. Nous avons choisi ce thème parce que le niveau de pollution augmente. Depuis des années, les risques de cancer et de décès parmi les travailleurs et parmi la population, sans que ce fait n'alerte véritablement les pouvoirs publics qui, pour la plupart, se montrent plus préoccupés de l'emploi et de la balance commerciale que par les maladies et décès liés à la pollution, d'abord parmi les salariés, puis ensuite dans la population. Nous savons que les excès des multinationales, extractivisme ou agro-industrie liés au capitalisme mondialisé tue des travailleurs et des populations proches des sites de production, ici et ailleurs. Partout, des communautés sont en lutte contre ces pollutions. Dans des registres différents, nous pouvons citer le chlordécone, l'amiante, les PFAS polluants éternels, les pesticides, les industries pétrochimiques polluantes, potentiellement mortelles. Et la liste n'est pas exhaustive. Ainsi va le capitalisme qui a toujours besoin d'exploiter, avec beaucoup de voracité, les ressources du vivant pour le bien-être des plus riches. Mais aussi, partout, des collectifs où des communautés s'organisent. Nous pouvons citer le collectif Stop Belenos, qui s'oppose au projet d'une mine d'or près d'Anceny, le collectif Non au forage pétrolier dans le sud Seine et Marne, la lutte contre une mine de lithium dans l'Allier, entre autres. La liste des pollutions est longue, les recours multiples, les victoires rares, mais elles existent. Nous vous proposons l'histoire de plusieurs luttes dans le secteur de Saint-Nazaire-d'Onge avec Michel et Marie-Aline de la EDZRP, Yannick de l'Association des habitants de Gron, Christian de Vivre à Méhanne-Penouette, Sophie militante active, syndicat Sud Solidaire, Didier qui s'intéresse aux pollutions et Samy, journaliste à Splan. C'est parti pour un moment d'échange et après avoir écouté Michel, Marie-Aline et Yannick, eh bien vous aurez Michael Jackson avec sa chanson Earth Song qui est une chanson sur l'écologie.
Donc moi je suis Michel Leclerc et je suis membre de l'association Dongeoise et Zone à Risque et membre du bureau.
Marie-Aline Leclerc, association environnementale Dongeoise des Zones à Risque et du PPRT. Et je suis la présidente de l'association.
Ok, merci.
Bon, Yannick Magne, je fais partie de l'association des habitants du village de Gron et je suis le président.
Alors, notre association s'est constituée en 2011 officiellement. On a déposé nos statuts, donc c'est une association qui est reconnue loi 1901. Nous avons commencé à travailler un petit peu en amont de cette déclaration entre riverains de plusieurs quartiers de la commune de Donge parce que nous avions remarqué qu'il se passait des choses étranges sur certaines maisons qui avaient été murées à proximité de la raffinerie. Et donc, suite à ces quelques investigations, on avait très très peu d'éléments, on a continué à creuser et nous avons appris qu'il y avait en projet un plan de prévention des risques technologiques, qu'on appelle PPRT en raccourci. Et donc, ce PPRT faisait suite à l'accident d'AZF, l'explosion AZF sur Toulouse, qui avait donné naissance à une loi que nous appelons la loi Bachelot, puisque c'était Roselyne Bachelot qui était aux affaires à l'époque. Et il était donc prévu, suite à ce gros accident qui avait fait quand même pas mal de victimes, morts et blessés, il était prévu de mettre en place de la protection pour les riverains. Et donc, quand on a plongé un petit peu le nez dans ce que c'était, dans les prescriptions qui étaient faites dans cette loi Bachelot, on s'est vite rendu compte qu'en fait, cette loi, elle préconisait aux riverains de mettre en place des protections pour eux-mêmes, de les financer en renforçant leurs fenêtres, en démontant leurs vérandas, si on était soumis à un risque d'explosion, ou en installant une pièce de confinement si on était exposé à un risque toxique selon les industries qui étaient classées Seveso et qui se trouvaient à proximité des habitations. Très vite, nous nous sommes dit que ça n'allait pas être possible de voir les choses sous cet angle-là. Donc, sur la commune de Donges, l'association est née. Nous avons aussi contacté un certain nombre de communes qui étaient dans la même situation que nous, puisque c'est national, hein, donc il y avait pas mal d'associations qui commençaient à se constituer aussi un petit peu à gauche, à droite, sur Dunkerque, sur Le Havre, sur Fos-sur-Mer. Et l'idée, ça a été de se mobiliser pour essayer de faire évoluer ces plans de prévention des risques technologiques en demandant premièrement, à ce que la notion d'économiquement acceptable soit retirée des textes de loi, puisqu'il était bien prévu que l'industriel devait réduire les risques à la source, mais à condition que ce soit économiquement acceptable pour lui. Et donc, les riverains et les riveraines ont obtenu de faire des travaux avec des réductions de crédits, c'était des crédits d'impôt, c'est ça qui était prévu, mais en sachant que la partie financière qui était mise en place pour accompagner la population, elle est financée de manière tripartite, c'est-à-dire qu'il y a un tiers qui est financé par l'industriel, les deux autres tiers sont financés par les collectivités au niveau de la région, du département et au niveau des communes. Ce qui fait que ça reste de l'argent public qui accompagne les travaux des populations riveraines. Et donc, on s'est très vite rendu compte que le BPRT, c'était un problème, mais qu'il y en avait beaucoup d'autres. Forcément, la raffinerie, c'est des nuisances au quotidien, le bruit, les odeurs, les fumées, les fuites. On a été très vite aussi alertés, donc 2 ans après la parution d'un rapport de l'ORS, qui annonçait sur notre territoire une surmortalité très importante chez les hommes de moins de 65 ans. À l'époque, on était à 32% de surmortalité chez les hommes de moins de 65 ans. Et donc, on s'est mis en quête un petit peu de comprendre ce qui se passait. On a fait des liens avec des associations sur le territoire qui se mobilisaient elles aussi de leur côté sur d'autres sujets, notamment avec Vivre Amers-en-Pin-Oued qui était mobilisé sur le Chrome 6, et puis avec l'association des habitants du village de Gron. Et là, on a entamé une campagne pour sensibiliser l'opinion et demander une étude épidémiologique parce que ces chiffres qui nous paraissaient vraiment énormes et alarmants ne faisaient pas bouger les élus. Il ne se passait rien suite à la publication de ce rapport de l'ORS. Donc, on s'est mobilisé, pétition, au contact des gens, plus de 2 000 signatures. Sollicitation de l'ARS, sollicitation des parlementaires, et on a fini par obtenir ce qu'on n'avait pas demandé. En fait, on demandait une étude épidémiologique, on a obtenu une étude de zone qui a démarré fin 2021, qui est en cours actuellement, mais dont nous avons claqué la porte parce qu'on s'est très vite aussi rendu compte que les demandes que nous portions n'étaient pas entendues, et à chaque fois, on met des freins pour mettre sur le devant de la scène la réalité des pollutions et des impacts des industries sur l'environnement et sur la santé des habitants. Donc, en fait, notre mobilisation au quotidien, c'est essayer de déjà d'informer la population quand il y a des fuites, quand il y a des accidents sur les industries, de suivre les arrêtés préfectoraux, d'essayer de faire bouger les élus. Alors, certains sont très partie prenante. Hein. On a deux maires sur le secteur qui sont partie prenante, le maire de Montoeur-de-Bretagne, le maire de Trignac, et puis un député, un sénateur qui suit aussi un petit peu de loin maintenant qu'on a un nouveau sénateur. Le précédent était plus actif. Et pour nous, c'est vraiment au quotidien un combat bah oui, de faire mettre sur le devant de la scène ce qui se passe, d'informer, de faire réduire les pollutions, de faire en sorte que les industriels respectent les réglementations parce qu'ils ne la respectent quasiment jamais. Donc, il y a tout un tas de choses qui, au quotidien, sont mises en place entre nos associations pour essayer de faire avancer les dossiers. Alors, c'est un petit peu méli-mélo tout ça, mais bon, voilà, on peut revenir après individuellement sur chaque sujet.
Merci. C'est pas méli-mélo, hein. C'est très concret quand même. Donc on va laisser la parole à Yannick et puis après on reviendra vers vous. Donc à toi, Yannick.
Oui. Nous, notre association, elle est née en 1970. L'État avait prévu de raser complètement le village pour construire des darses pour fabriquer des super tankers au chantier de l'Atlantique. Ça s'est pas fait. Ça a été dirigé vers Taïwan à la fin. Donc ils ont revendu les maisons qu'ils ont achetées, mais ça s'est pas fait aussi parce que ben, l'association s'est montée vent debout pour éviter la fermeture du village. Donc depuis ce temps-là, cette association, la nôtre, là, on s'occupe de tout ce qui toutes les entreprises qui sont autour de notre village et qui polluent plus ou moins quoi. Donc on fait des interventions au niveau de la municipalité, au niveau des élus, au niveau des représentants des industries mitoyennes. Et on a du boulot, on est intervenu plusieurs fois avec gain de cause. Mais là, actuellement, je dirais que si, depuis une vingtaine d'années, il y a le grand port maritime qui s'est mis en place du village, là, juste en face. Avant, c'était des landes, hein, on allait promener nos chiens ou on allait jusqu'aux bordures de la Loire. Maintenant, on a le grand port. Le grand port, l'aménagement de cette zone, ça a été établi arbitrairement par l'administration. Seuls pour nous les intérêts économiques sont pris en compte, mais les intérêts des populations concernées sont carrément ignorés. Surtout les nôtres au village de Gron, il n'y a aucun respect pour nous. On est entouré d'une départementale tout autour du village, et c'est des milliers de camions par jour qui passent. Il y a un certain moment de la journée au niveau des embauches et tout, on peut même pas sortir du village. C'est catastrophe, quoi. Alors nous, de notre côté, ça fait des années qu'on réclame déjà de rentrer au PPRP de Yara, mais on a toujours été refusé. Et autrement, on réclame toujours des mesures en continu pour les PM, les COV, les métaux, par des capteurs aux abords du village, qu'on n'a pas encore obtenu. Après, pour nous, la neutralité carbone, si on parle d'un, je vous ai entendu parler de la décarbonation, nous on est d'accord, hein, décarbonation oui, mais quid des risques industriels qui l'accompagnent, comme ce qu'on voit souvent chez Total ou même chez Engie, des fuites, de la pollution de chez Yara dans l'eau, toutes ces choses-là. La décarbonation, c'est beau, c'est un beau mot. Mais maintenant, la pollution autour des habitations. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au début des années 70, l'État avait prévu de raser le village. Et maintenant, on a une grosse inquiétude parce qu'on reste la seule place où ils pourraient construire d'autres entreprises, agrandir le port autonome et agrandir Airbus qui se trouve. On a le port autonome d'un côté, on a Airbus de l'autre côté. Et il lui manque, je ne sais plus combien de mètres carrés, de milliers de mètres carrés pour construire d'autres bâtiments Airbus. On se dit, ils vont peut-être avoir de nouveau l'idée de raser le village pour en faire une plateforme centrale ici, un peu comme à Fos-sur-Mer, un grand truc à la sortie de Saint-Nazaire. Et puis, ce n'est pas les 200 maisons qu'il y a dans le village qui va les gêner. Donc, on est toujours là et on espère que ça ne se fera pas, mais on a quand même des craintes de ce côté-là.
Je sens un certain désabusement.
Oui,
Alors, tu dis quand même que vous avez eu quelques gains de cause. Vous avez réussi
on
les
avait
luttes.
l'idéal là qui stockait des graines là. Juste de l'autre côté de la rue du village, là, il y avait un nuage de poussière de grains et tout, des trucs qui sont cancérigènes. Ça, les gens n'est pas du. Il a fallu faire venir la presse et tout. Hein, du coup, maintenant, on a gagné ça. On a gagné d'autres choses. Mais ça reste que, dans l'ensemble, on n'est pas respecté. On sent vraiment qu'on gêne vraiment. Là, Marie-Aline disait tout à l'heure qu'on a la chance d'avoir un maire à Montoire ou à Trignac qui est partie prenante de notre cause, mais l'ancienne municipalité chez nous avant Didier Noguet, là, Thierry Noguet, excusez-moi, et il nous disait, ah, vous n'allez quand même pas nous reprocher de créer de l'emploi. Ah oui, mais nous, on veut bien de l'emploi, on n'est pas contre l'industrie, par contre, on est contre la pollution.
On disait aussi que l'administration, l'État, enfin, l'ensemble des pouvoirs n'ont pas beaucoup de respect pour les riverains. On le voit par exemple dans le cadre des enquêtes publiques qui sont organisées, auxquelles, pardon, jusqu'à maintenant, on a participé. On a encouragé aussi les citoyens à participer à ces enquêtes, considérant que c'était un espace de liberté qu'on pouvait donner. Donc, effectivement, il y a eu un engagement important de chacun et chacune d'entre nous. Mais on s'aperçoit en fin de parcours que les efforts des uns et des autres sont balayés d'un revers de main. Vous avez un commissaire enquêteur qui a entendu tout le monde et qui finit quand même par donner un avis favorable, ce qui donne aussi la main libre au préfet pour considérer le projet réputé valable. Ça, c'est vraiment, et ça finit par, ça continue à agacer les personnes et qui se disent, et ce qu'on souhaiterait pas, ne ce qu'on souhaite pas, mais qui se disent, mais ça ne sert à rien. Donc, ça aussi, si vous voulez, il faut que l'on appuie sur ce levier pour démontrer que on n'est pas des imbéciles et que il serait bon qu'on écoute un petit peu les riverains qui sont concernés et qui sont en première ligne. Ah, je corrige. Les riverains sont en seconde ligne, les salariés sont en première ligne. Et c'est un combat commun, quoi, parce que on cherche aussi, et j'en aurais terminé là-dessus, on cherche aussi à démontrer que les nuisances qui sont dénoncées par les riverains, elles sont malheureusement subies par les salariés qui sont à l'intérieur des entreprises et que pour eux, par exemple, c'est souvent la double peine. Ils sont dans l'entreprise, ils sortent et ils continuent à être pollués. Et puis nous, c'est la même chose. On parlait tout à l'heure des nuisances. Il y a des moments sur. De toute façon, à chaque fois que vous faites venir une personne extérieure à Donge, la première réflexion qu'elle fait, c'est ça sent. Et je vous assure que c'est pas un vain mot parce que il y a parfois des odeurs, parfois il y a des fumées qu'on ne nommera pas mais qui sont impressionnantes. Et puis tout ce qu'on ne voit pas, toutes les fuites qui existent dans les eaux, dans les sols et qui abîment l'environnement qui existe.
C'est quand même assez poignant, hein, vos témoignages. Et c'est un combat de longue date et contre des ennemis bien, bien ancrés dans le territoire et bien protégés aussi, hein, si je comprends bien, par les pouvoirs publics. Alors, je vous redonne la parole, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc, la raffinerie, pour préciser, c'est Total. Donc,
Oui,
c'est pour avoir bien une idée des pollueurs, il y a Yara, Elangie aussi.
Élangie, oui.
Et
Idéa.
comment?
Idéa.
IDEA. Et c'est quoi IDEA?
Idéa, c'est une entreprise qui de stockage ou de logistique qui s'occupe de pas mal de fret du port autonome, quoi, qui s'occupe de stocker du blé, de tout un tas de choses.
Ils stockent et ils transportent. En fait,
Ouais.
ils font tout un tas d'actions pour les
Ouais.
autres industriels du secteur.
Voilà.
Par exemple, là, ils sont. Ben, tout à l'heure, Yannick parlait des grains qui étaient stockés à proximité de leurs habitations, mais là, ils sont aussi les maîtres d'ouvrage sur la future plateforme logistique qui va être installée à proximité d'Airbus sur la commune de Montoire. Donc, Airbus a besoin de recentrer ces différentes plateformes logistiques qui, pour le moment, sont un petit peu éparpillées en divers endroits. Donc, sous le couvert de, justement, faire moins de transport entre ces stockages de pièces et les installations où ils les travaillent. Il veut rapatrier tout en un lieu, donc à proximité de son usine de Montoire. C'est IDEA qui est porteur du projet. Et donc là, on va construire une énorme plateforme logistique sur un espace qui, pour le moment, contenait encore des zones humides et des espèces protégées,
La dernière zone humide du coin.
avec la bénédiction des services de l'État. Et donc, on nous vend ça comme quelque chose qui va être favorable à la décarbonation, puisque ça va réduire les transports. Sauf que quand on regarde bien le projet, ça va mettre une centaine de camions sur les routes du secteur. Donc, on va concentrer en fait ce transport sur notre territoire qui est déjà largement saturé par le transport routier en tous sens, alors qu'on a des voies ferrées qui normalement pourraient aussi contribuer à la logistique et qui sont très peu utilisées.
Merci. J'avais vu aussi, il y a un projet qui s'appelle Tech Care.
Oui.
Alors le projet Tech Care, il est lié à la volonté de décarbonation du grand port maritime. Le grand port maritime, il a obtenu, comme d'autres grands ports, hein, puisque là c'est aussi une mise en œuvre nationale. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, plusieurs ports sur le territoire ont obtenu. Il y a le port de Fos-sur-Mer, le port du Havre, le port de Dunkerque, qui sont maintenant étiquetés zone industrielle bas carbone. Bon, en raccourci, ça fait ZIBAC, hein. Donc, on ajoute toujours tout un tas de jolis termes. Donc, le grand port Nantes-Saint-Nazaire obtient ce label et maintenant, il doit mettre en œuvre des actions pour rendre effectif cette dénomination zone industrielle bas carbone. Et on a évoqué tout à l'heure le projet Grand Ouest CO2, qui est un des gros aménagements, qui est un des gros projets qui doit se mettre en œuvre, dont va dépendre aussi le projet Tech Air. Le projet Tech Air, c'est fabriquer des carburants de synthèse pour les avions à partir d'hydrogène et de CO2. Donc l'idée, c'est d'acheminer le CO2 qu'on va récupérer aux cimenteries en Mayenne, en Deux-Sèvres, d'acheminer ce CO2 par des tuyauteries. Alors on appelle ça des carboducs, puisque ça va transporter du gaz carbonique, jusqu'à Montoire, au terminal méthanier. Une partie de ce CO2 devrait pouvoir servir à la production de ces carburants de synthèse. Donc, parce que la TechCare, c'est pour les avions, mais on a aussi un autre projet qui s'appelle Green Coast, qui, lui, fabriquerait du carburant de synthèse pour les bateaux. Et le CO2 dont on ne saurait que faire serait liquéfié par le terminal méthanier et serait ensuite expédié par bateau pour être enfoui dans des cavités en mer du Nord, par exemple, ou ailleurs.
Par rapport à ce que vient de dire Marie-Aline sur le projet Go CO2, ce sont des projets qui ont un coût faramineux. Go
Oui.
CO2, c'est plus de 4 milliards.
4,38, oui.
Annoncé,
Annoncé,
annoncé.
annoncé. Ouais. Donc on sait que
ouais,
il y en a forcément
ça sera
d'un
peut-être
côté.
doublé.
Voilà.
375 km de canalisation.
Je suis un peu sidérée, honnêtement. Voilà, ce n'est pas ma spécialité et je trouve très bien que vous puissiez en parler et qu'on puisse diffuser ça autour de nous. C'est un petit peu comme l'extraction minière, hein. On présente un bon côté alors qu'en fait, c'est une vraie catastrophe. Et donc, on est je dirais les citoyens, on est les seuls à peut-être pouvoir faire bouger les choses si on arrive à faire masse. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même, hein. Que les recours judiciaires sont. Enfin,
Ben oui, mais il y a quand même des associations qui arrivent. Hein. Je pense par exemple à ce qui vient de tomber sur le dos de Total, qui est contraint d'abandonner son projet de pétrolier marin là, du côté du Havre, et qui aussi a été mis en difficulté par rapport à la publicité, pardon, mensongère qu'il fait sur un certain nombre de ces produits, quoi.
Oui.
Je crois que c'est il y a un certain nombre d'associations.
Mais c'est long.
Mais c'est long. Et puis, vous voyez, nous, c'est pareil. Alors, vous avez raison de dire que c'est long. C'est long et c'est coûteux. Alors, nous, on n'a pas les reins aussi solides que ces grosses entreprises. Quand il faut déposer un recours, ben, on se regarde tous les yeux dans les yeux pour dire qu'est-ce qu'on fait parce que, bon, ça va coûter. Même si on a à côté de nous, enfin, des avocats qui essaient de. Des avocats un peu militants qui essaient de diminuer le coût de l'opération, ça reste quand même pour nos petites associations un gouffre financier important. Et c'est aussi c'est aussi ce que savent nos adversaires hein, qui sont face à nous là. Ils savent que de toute façon, mettre en place un recours qui soit contentieux, qui soit gracieux, qui soit contentieux, et au-delà, on n'a pas forcément les finances pour. On parle beaucoup de cancer, les 42% que citait Yannick, mais à côté de cela, il y a toute une série de maladies également qui sont pléthores sur le secteur. Vous avez les maladies cardiovasculaires, vous avez les maladies respiratoires, pulmonaires, etc. Combien de gamins aujourd'hui sont obligés de prendre de la ventoline pour mieux respirer? Ça veut dire que l'air que nous respirons, il est loin d'être satisfaisant. Il est souvent médiocre sur le secteur. Donc effectivement, moi aussi, hein, comme Yannick, ça fait un peu mal au cœur d'entendre dire, ouais, oui, grâce à la bonne santé, pour attendre quand même un peu d'humanisme, à la bonne santé des industries, etc., l'homme, là-dedans, ne compte pas.
L'homme est tout le vivant.
Oui, bien, oui, l'homme, bien sûr, et toute la biodiversité qui est derrière et qui disparaît comme ça au jour et au jour.
Il n'y a pas d'études sur toutes ces maladies, sur les taux de personnes malades, d'études fiables?
Les seules études dont on dispose pour le moment, ce sont les rapports qui sont faits par l'ORS et l'ARS. Ils sont mis à jour parce que c'est pareil, il faut pousser aussi pour obtenir des mises à jour. Régulière. Il y avait au démarrage de l'étude de zone une annonce qui avait été faite et qui avait été portée par les associations qui s'étaient inscrites hein, dans l'étude de zone d'obtenir un croisement des bases entre le registre de cancer et les registres qui sont tenus par l'inspection du travail avec les maladies professionnelles. Puisque au départ, dans l'étude de zone, nous avions demandé à ce que les représentants des salariés soit inclus dans ce qu'on appelait le comité d'orientation stratégique qui se réunit régulièrement. Ça a été refusé au prétexte que ce n'était pas du tout la même chose. Nous, on était l'étude de zone était là pour surveiller l'étude des pollutions sur l'environnement, mais pas pour regarder ce qui se passait au sein des entreprises. Il ne fallait pas mélanger les choses. Et on nous avait finalement rétorqué qu'on allait faire entrer un représentant de l'inspection du travail dans l'étude de zone, ce qui allait remplacer les représentants des salariés. Donc, c'était déjà une première chose sur laquelle nous, on avait un petit peu, on avait fait un peu gloups. Et donc, cette base de ce croisement des bases de données, donc depuis 2021, on en parle. À chaque fois qu'on a eu l'occasion, on a reposé la question quand on siégeait au sein du comité d'orientation stratégique. On a toujours des réponses qui sont très nébuleuses et on n'a jamais pour le moment obtenu de rapport qui présente des données chiffrées. Donc il y a vraiment aussi une volonté de mettre la poussière sous le tapis en permanence. Là, il y a une grande étude qui est lancée depuis 2 ans maintenant. On parlait de la longueur au niveau de la justice, des recours, mais au niveau de l'aspect sanitaire, on est exactement dans le même étirement du temps, puisque là, au niveau de cette étude sur les grands bassins industriels, la volonté, c'est de comparer ce qui se passe justement au niveau des maladies qui sont recensées, au niveau de l'impact sanitaire de ces bassins industriels. Il faut déjà au moins 1 an, voire 1 an et demi, pour être en réflexion et savoir si l'étude est faisable. Une fois qu'au bout d'un an, 1 an et demi, on a décidé que l'étude était faisable, il faut faire la collecte des données. Et donc là, cette étude, visiblement, elle ne donnera ses premiers résultats que dans 3 ou 4 ans. En sachant que sur cette étude-là, les bases de données qui vont être utilisées pour comparer les grands bassins industriels, ça va être les données qui sont auto-déclarées par les industriels au niveau de leurs émissions de pollution. Et je vous vois sourire, effectivement, forcément, on pense la même chose, c'est-à-dire qu'on se base toujours sur ce que déclare l'industriel. On n'a jamais d'entité indépendante qui se pose vraiment des questions et qui met vraiment en place quelque chose de transparent. On a le même problème avec les bureaux d'études qui sont payés par les industriels quand il y a un accident, par exemple, quand il y a une fuite, quand il y a une pollution qui est avérée. L'industriel paie un bureau d'études pour faire des recherches, pour faire des analyses. Quand les rapports sont produits, on arrive parfois à 4 ou 5 versions du rapport avant d'obtenir le rapport final, qui à chaque fois est corrigé par l'industriel. Donc c'est très très compliqué tout ça, d'avoir des données fiables, d'avoir des études. L'ARS est très très dépendante aussi enfin, forcément des services de l'État. Donc on a très peu d'autonomie, enfin de services autonomes qui pourraient dire les choses sans être dépendant à la fois des préfectures et des industriels. Donc on tourne en rond tout le temps.
Notice this crying earth as we make sure I Ouais. Donc, Solidaire, c'est une union syndicale qui est très active au niveau écologique. Et donc, localement, on a l'embarras du choix avec les différentes luttes. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'AEDZRC et de différentes luttes locales, soit par le biais des soulèvements de la terre, soit juste par des collectifs. Donc, voilà. Et qui nous mobilise beaucoup localement, c'est Yara et tout ce qui se passe dans le port, mais aussi les projets immobiliers, comme à Gavi. Donc, c'est un projet immobilier du maire de Saint-Nazaire qui vise à faire des logements sur un site naturel en bordure de mer. Donc, évidemment, on s'y oppose. Et puis, oui, on participe au Toxic Tour. Donc, le Toxic Tour, c'est une idée d'aller sur un lieu de lutte en vélo et à chaque étape rencontrer des militants ou des militantes et discuter du thème du Toxic Tour. Donc, nous sommes allés aux bassines. Alors, le thème, c'était le nucléaire et l'eau. Nous sommes allés à La Hague. Donc, évidemment, c'était le nucléaire. On en a fait un dans le port en automne, là, en septembre, et c'était avec l'AEDRP, l'idée de montrer les liens entre toutes les entreprises polluantes du port et que les personnes présentes se rendent compte de l'ampleur des dégâts et de ce qui va arriver, puisqu'il y a d'autres entreprises très polluantes qui vont arriver. L'équipe des Soulèvements de la Terre a créé une pièce de théâtre pour expliquer Yara aux gens. Donc, elle est jouée soit sur des lieux de lutte, soit elle va être jouée en décembre, début décembre, dans un lieu militant sur Saint-Nazaire, à la Fraternité. Donc, tu vois, il y a plein de formes de lutte et pour essayer de toucher le maximum de personnes et expliquer les enjeux. Des politiques d'État et locales, non environnementales, on va dire. On est quand même quelques-uns et quelques-unes. Et l'idée, c'est ça, c'est que les personnes, en fait, savent qu'il y a des risques, mais ne connaissent pas forcément l'ampleur. Et ça, Didier est au point là-dessus. Et puis, c'est alerter, c'est pas faire peur, mais c'est vraiment alerter, quoi. Il y a des choses qui se décident sans notre avis et des choses qui engagent notre vie quotidienne pour des années et des années. Et bientôt, on ne pourra plus boire l'eau, on pourra l'air à Saint-Nazaire est vraiment pas bonne certains jours. Donc, tout ça, et ça entraîne des problèmes de maladie. Il faut que les gens sachent que c'est pas parce que. Il ne faut pas attention, c'est vraiment notre lieu de vie qui est pollué et par qui il faut expliquer quoi. Voilà, ouais. C'est comme toi, on explique. Et puis il faut être nombreux parce que on est sur des luttes nos adversaires ont énormément d'argent, sont très puissants, ont le soutien des politiques. Donc, il faut vraiment être nombreuses, nombreuses sur ces luttes pour montrer qu'il y a vraiment une opposition, quoi. C'est pas des gens comme ça qui râlent. Non, non, c'est vraiment une opposition. Et quand on informe, par exemple, sur le marché et tout, les gens sont intéressés. Il y a très peu de personnes qui nous disent « Oh, vous êtes des râleurs, des écolos et tout. » Pas du tout, du tout. Les gens s'arrêtent, écoutent, posent des questions et tout. Donc, c'est vraiment une démarche à faire, quoi. Mais ça prend du temps.
Donc moi, je suis depuis 2019 sur la région nazairienne. Et depuis 2019, j'ai constaté plusieurs choses. Moi, je suis venu pour respirer l'air pur du bord de mer en pensant qu'il y avait des vents d'ouest. Et donc, par les vents d'ouest, même si Pornichet, j'habite Pornichet, même si Pornichet est près de Saint-Nazaire, par les vents d'ouest, je ne devais pas être embêté par le côté industriel de Saint-Nazaire s'il n'y avait que des vents d'ouest. En arrivant, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des vents d'ouest, il y avait des vents de nord-est. Et par vent de nord-est, ben, l'air pollué que j'avais sur Paris, ben là c'est l'air pollué de Saint-Nazaire qui peut venir sur Pornichet et qui peut faire des dégâts. À l'époque, les associations locales avaient commencé à s'agiter ou à agiter les problématiques de surmortalité. J'ai regardé les différentes situations du point de vue pollution de l'air, mortalité et autres qui étaient à proximité dans les différents rapports. Donc, concernant la surmortalité, moi, c'est ça qui me stimule dans le combat, c'est qu'elle est croissante, toujours croissante, la surmortalité prématurée, et elle touche Pornichet. À l'époque, Pornichet était la commune de la Carême, où c'était les femmes qui avaient le plus grand taux de surmortalité prématurée. Et tout le monde s'en foutait, personne ne comprenait pourquoi. Tout le monde disait, c'est parce qu'elles sont... Elles sont plus riches, elles vont voir le médecin plus tôt, donc elles sont diagnostiquées plus vite. C'est pour ça qu'il y en a plus. C'est complètement idiot, parce que quand on regarde la mortalité, c'est pas, si au contraire, si on avait détecté plus tôt, il devrait y avoir moins de mortalité si on soigne plus tôt. Donc voilà, mon débat, mon combat, c'est la surmortalité. Et dans ma rue, ma rue fait 200 mètres à Pornichet. Et quand je suis arrivé, enfin 2 ans après mon arrivée, il y avait une de mes voisines qui est décédée à l'âge de 60 ans. Et là, l'année dernière, j'ai une autre voisine de 5 ans que 3 ans, je crois, qui elle aussi est décédée. Donc, c'est une réalité, le décès des femmes ou des hommes, y compris à Pornichet, c'est une réalité. Et donc, en creusant, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les spécificités nazériennes ne sont pas mises sur la table. Donc le vent, c'est vrai que tout le monde peut penser comme moi au début que c'est un vent d'ouest. Or, on a un vent de nord-est qui peut nous amener des polluants. Donc selon les cas, selon l'endroit où on habite, on peut recevoir les polluants de gauche ou les polluants de droite. Dans tous les cas, ils rentrent dans nos poumons et peuvent contribuer à dégrader notre corps et à déclencher des cancers. Malheureusement, on en a beaucoup chez nous. Donc, premier constat, donc les vents. Deuxième constat, les émissions. Quand on regarde les capteurs d'air pays, les émissions et les concentrations, c'est ce qu'on respire. Air pays, regardez quels sont les polluants qui sont dans l'atmosphère. Pour ça, il met en place des stations de mesure. Mais j'ai regardé où est-ce qu'il les met. Il les a mis vers le parc paysager ou vers l'hôpital. Donc, très loin des émetteurs de polluants que peuvent être la zone industrielle des chantiers ou Airbus ou la raffinerie. Donc, les stations de mesure ne sont pas sous les vents, ne reflètent pas réellement les polluants qui sont. Donc, c'est quand même un peu curieux. Logiquement, on met les stations là où il y a des habitants, certes, mais en tenant compte des vents pour voir ce que réellement les gens respirent. Et puis, ces stations de mesure, quand on les regarde, elles vont mesurer les polluants traditionnels, les polluants qu'on peut trouver à Paris, à Angers ou ailleurs ou n'importe où. C'est principalement les polluants des voitures, les polluants du chauffage au bois. Enfin, on ne va pas rentrer dans la technique, bon, c'est les poussières ou les dioxydes d'azote banals. Problème, les entreprises que nous avons ici ont des activités qui émettent des polluants qui ne sont pas des polluants habituels. Et le problème, ils ne sont pas réglementés, ces polluants. N'étant pas réglementés, ils ne sont pas mesurés. Et parfois, il n'y a même pas de valeur limite à ne pas dépasser. Or, ce sont très souvent les polluants les plus dangereux. Donc, on ne mesure pas au bon endroit, on ne mesure pas les polluants les plus dangereux. Ben, tout va bien. Moi, j'appelle ça une omerta. Puisqu'on ne veut pas savoir quels sont les polluants qui sont là et leur dangerosité, leur effet sur la santé. Donc, tout le combat, effectivement, c'est de faire en sorte que l'on progresse dans la connaissance de l'environnement dans lequel nous sommes, puisqu'on est censé, par notre constitution, avoir le droit de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé, ben malheureusement, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, on constate une surmortalité qui grandit et non pas cet environnement sain auquel on a droit. Voilà, donc mon combat, c'est faire la lumière sur les vraies causes de la surmortalité. Ce n'est pas l'alcool et le tabac. On ne boit pas plus, on ne fume pas plus à Saint-Nazaire qu'ailleurs. Donc, identifier ces vraies causes, les faire reconnaître comme telles, et ensuite les réduire. Donc, les réduire, c'est vrai que ça passe par une prise de conscience de la population de la situation, 42% de surmortalité prématurée pour les hommes, c'est énorme et pourtant personne n'en parle beaucoup. Ça fait quand même 50 morts par an au minimum, entre 50 et 250 morts selon les chiffres. C'est pas tous les jours qu'on a 50 morts. C'était autant que le Covid. Quand on avait le Covid qui faisait des morts un peu partout, et on était à peu près sur les mêmes pourcentages de décès. Donc, lutter contre cette surmortalité, la faire savoir pour la population, faire comprendre à la population que ce n'est pas la contrepartie normale et naturelle du travail. La valeur travail, c'est pas un droit à mourir plus vite. Donc ça, c'est quand même quelque part la problématique ou le discours que l'on peut entendre dans nos politiques. On a l'emploi et on est bien content d'avoir l'emploi. Oui, c'est bien d'avoir un emploi, c'est bien d'avoir un logement, mais mourir plus vite, ce n'est pas prévu comme complément de salaire, quoi. Donc, faire comprendre à la population qu'il y a une justice sociale, une justice fiscale à demander, mais il y a également une justice environnementale. On ne doit pas être en l'endroit le plus mauvais. Enfin, c'est pas... Voilà, donc faire connaître à la population cette situation-là pour qu'elle s'exprime et qu'elle le sache et éventuellement qu'elle se protège, parce qu'il y a quand même des moyens de protection face à cette pollution. Et puis, de l'autre côté, bah, faire comprendre aux politiques et aux industriels leurs responsabilités, parce que ce n'est pas normal. Enfin, ils sont responsables de leurs émissions, ils sont responsables de leurs actions de protection, que ce soit l'État ou les entreprises. Et surtout, dans notre secteur où on a des grandes entreprises, je dirais nationales, puisque les chantiers appartiennent à 90% et plus à l'État, l'Airbus, des entreprises européennes. Certes, une grande partie est publique, mais enfin, c'est largement stratégique pour la France et l'Europe. Ces entreprises ont les moyens, ont une responsabilité sociétale importante, et je ne comprends pas que ces grandes entreprises ne s'orientent pas vers un accroissement de leur responsabilité sociétale et environnementale.
Non, tout ce qui me fait peur, c'est l'avenir, parce que je sais pas, j'ai peur de la guerre, premièrement, parce que je sais pas, peut-être que demain la Terre pourrait exploser avec quelques bombes H, trucs comme ça. Et puis, du mariage aussi, j'ai un peu peur. Non, moi, surtout, moi, c'est que la nature ne disparaisse pas, tu n'extermines pas encore si phoques, qu'on arrête de tuer comme ça pour manger de la viande. Je trouve qu'on devrait s'en passer un peu. À la place plutôt de s'empiffrer sans arrêt.
Casquette baissée et capuche noire pour planquer nos écouteurs blancs. Ouais, c'est ça nos super pouvoirs. Y'a toujours un Y qui pend. C'est un tout petit accessoire qui vient protéger nos tympans. On a plus l'âge pour vos histoires. Qu'avez-vous fait de vos enfants? Vous n'avez eu que peu d'égards à ce qui plus tard nous attend. Vous avez aussi voulu croire qu'il y aurait tout et ce tout le temps. Comment voulez-vous qu'on répare? Vous avez tout fait pour l'argent. Désolé de vous décevoir. Et pourriez votre testament. On se transforme quand vient le soir. On a des costumes transparents. On sait que vous pouvez pas nous voir. On peut aussi en dire autant. On se donne rancard quelque part. Quand t'es planqué dans ton salon, on se retrouve pas par hasard. On touche pas ton poste à la con. On prépare le nouveau départ. On a de l'imagination. Vos jours s'achèvent. Quand la nuit tombe, on la relève. On refait le monde. On refait le monde, 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 on refait le monde. Elles sont si serrées nos mâchoires qu'on pourrait s'en péter les dents. Et si on a le regard noir, c'est qu'on voyait la vie autrement. Y croire encore est tout un art qui ne demande pas de talent. Alors on prend des cours du soir, le cul pas posé sur le banc. On étudie et on compare là où on merde et nos parents. Si le monde est un laboratoire, fallait le prendre avec des gants. Vos jours s'achèvent, quand la nuit tombe, on la relève. On refait le monde. on refait le monde, on refait le monde.
Faire savoir à la population pour qu'elle bouge, pour qu'elle s'exprime, faire savoir aux entreprises que leur responsable, qu'on les regarde, qu'on le voit, et que ça ne sert à rien de continuer à cacher ce qu'elles font. C'est vrai que quand je suis arrivé, le fumier de soudage, il n'y avait aucun document dans les rapports d'inspection, dans tous les documents qu'on voyait, rien sur les fumiers de soudage. C'est quand même curieux quand on voit que les chantiers d'Atlantique ont 80% de leurs salariés ou de leurs employés, parce que ce n'est pas forcément leurs salariés, ils font de la soudure. Les fumées de soudage, c'est reconnu dans la littérature scientifique et médicale comme étant dangereux, cancérigène, parce que ça rentre dans les poumons, ça rentre dans le sang parce que c'est des poussières ultra fines. Bon, donc là, effectivement, depuis le temps qu'on est un peu sur le sujet, on a enfin réussi à ce que l'État aille embêter un petit peu les chantiers d'Atlantique pour que l'on mesure quelles sont les quantités de fumées de soudage, qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les métaux lourds comme le chrome 6 qui sont présents dans les fumées de soudage. Voilà, donc c'est mettre sur la table les vrais problèmes, les vraies causes de problèmes et oser le dire des deux côtés, du côté de la population pour qu'elle ne soit pas passive, et pareil du côté des entreprises pour qu'ils soient à la hauteur de l'image qu'ils veulent avoir.
Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est le chrome 6?
Alors, le chrome 6, c'est un. Bon, c'est le chrome est un métal, on va dire, qu'on trouve notamment dans l'acier inoxydable. D'accord? L'acier inoxydable, c'est le chrome qui donne le bon côté de anti-corrosion de l'acier inoxydable. Et donc, ce chrome 6, c'est du chrome, c'est un métal. C'est une forme particulière du chrome par rapport à la quantité d'oxygène qui peut être associée à lui. Mais bon, ça, c'est un détail trop technique. Donc, le chrome en lui-même, quand il est sous cette forme de chrome 6, il est cancérigène. Donc, et on le trouve où? On va le trouver dans les peintures anti-corrosion utilisées par les Airbus, notamment chez nous, là, pour protéger les carlingues, pour protéger la structure des avions. Et toutes les peintures anti-corrosion de l'aéronautique, donc chez Airbus et chez ses sous-traitants. Et on va trouver également le chrome 6 dans le ciment. Donc, quand on a du ciment qui est fabriqué par exemple par Exium vers Montfort de Bretagne, on trouve pas mal de chrome 6 dans le ciment. On va trouver aussi du chrome 6 dans les fumées de soudage des chantiers d'Atlantique, parce que comme là on veut on fait des bateaux et donc une partie de l'accastillage des bateaux est en acier inoxydable et donc on va le souder. On fait des soudures d'acier inoxydable, on va dégager du chrome 6. Donc le chrome 6 est un peu le polluant spécifique de Saint-Nazaire qui est peut-être un des polluants les plus cancérigènes et qui contribue parmi tant d'autres à la surmortalité prématurée de Saint-Nazaire. Je suis à peu près sûr qu'on pourrait quasiment le démontrer, puisque quand on regarde la surmortalité à Redon, la surmortalité dans d'autres agglomérations de la région, on voit par exemple qu'à Redon, il y a une surmortalité prématurée des hommes. Et comme par hasard, à Redon, il y a 3 sites Seveso, et il y a 2 grandes entreprises qui émettent du chrome 6, et parmi ces deux, il y en a une qui travaille pour Airbus.
Notre dernier morceau musical, Marvin Juno, On refait le monde, ou on essaie. C'était aussi Didier et Sophie. Sophie parle de cynisme, mais c'est peut-être de l'indifférence aux autres. C'est peut-être l'idée que le capitalisme est une bonne chose. C'est peut-être un problème de démocratie, de formation, d'éducation. Et c'est pourquoi nous vous proposons des émissions comme Autre Monde, Autre Zone. Nous vous donnons des pistes de réflexion qu'il faudra approfondir probablement. La seconde émission sera diffusée le 13 janvier à 17h sur le même thème de la pollution du port de Saint-Nazaire et Motte-Donge. Vous y retrouverez d'autres personnalités. N'hésitez pas à consulter notre site Attaque 44 qui contient pas mal d'informations. Bisous bisous, ciao ciao, see you soon.
Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre zone.